Denis Diderot, le neveu de Rameau. Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, c'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir me promener au Palais Royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le banc d'Argenson. Je m'entretiens avec moi-même, de politique, d'amour, de goût, de philosophie. J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente, comme on voit dans l'allée de foi nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane à l'air éventé, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. Si le temps est trop froid ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence. Là, je m'amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l'endroit du monde, et le café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à ce jeu. C'est chez Ray que font assaut l'égal le profond, Philidor le subtil, le solide maillot. C'est là qu'on voit les coups les plus surprenants et qu'on entend les plus mauvais propos. Car, si l'on peut être homme d'esprit et grand joueur d'échecs comme l'égal, on peut être aussi un grand joueur d'échecs et un sot comme Foubert et Maillot. Un après-dîner, j'étais là, regardant beaucoup, parlant peu et écoutant le moins que je pouvais, lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de ce pays où Dieu n'en a pas laissé manquer. C'est un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. Il faut que les notions de l'honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête, car il montre ce que la nature lui a donné de bonne qualité, sans ostentation, et ce qu'il en a reçu de mauvaise, sans pudeur. Au reste, il est doué d'une organisation forte, d'une chaleur d'imagination singulière et d'une vigueur de poumon peu commune. Si vous le rencontrez jamais et que son originalité ne vous arrête pas, ou vous mettrez vos doigts dans vos oreilles, ou vous vous enfuirez. Dieu, quel terrible poumon! Rien ne dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois, il est maigre et hâve, comme un malade au dernier degré de la consomption. On compterait ses dents à travers ses joues. On dirait qu'il a passé plusieurs jours sans manger, ou qu'il sort de la trappe. Le mois suivant, il est gras et replet, comme s'il n'avait pas quitté la table d'un financier ou qu'il eût été renfermé dans un couvent de Bernardins. Aujourd'hui, en linge sale, en culotte déchirée, couvert de lambeaux, presque sans souliers, il va la tête basse, il se dérobe. On serait tenté de l'appeler pour lui donner l'aumône. Demain, poudré, chaussé, frisé, bien vêtu, il marche la tête haute, il se montre et vous le prendriez un peu prêt pour un honnête homme. Il vit au jour la journée, triste ou gai selon les circonstances. Son premier soin le matin quand il est levé est de savoir où il dînera. Après dîner, il pense où il ira souper. La nuit amène aussi son inquiétude. Où il regagne à pied un petit grenier qu'il habite, à moins que l'hôtesse ennuyée d'attendre son loyer ne lui en ait fait redemander la clé, où il se rabat dans une taverne du faubourg où il attend le jour, entre un morceau de pain et un pot de bière. Quand il n'a pas 6 sols dans sa poche, ce qui lui arrive quelquefois, il a recours soit à un fiacre de ses amis, soit au cocher d'un grand seigneur, qui lui donne un lit sur de la paille à côté de ses chevaux. Le matin, il a encore une partie de son matelas dans ses cheveux. Si la saison est douce, il arpente toute la nuit le cours ou les Champs-Élysées. Il reparaît avec le jour, à la ville, habillé de la veille pour le lendemain, et du lendemain quelquefois pour le reste de la semaine. Je n'estime pas ces originaux-là. D'autres en font leur connaissance familière, même leurs amis. Ils m'arrêtent une fois l'an, quand je les rencontre, parce que leur caractère tranche avec celui des autres, et qu'il rompe cette fastidieuse uniformité que notre éducation, nos conventions de société, nos bienséances d'usage ont introduites. S'il en paraît un dans une compagnie, c'est un grain de levain qui fermente, qui restitue à chacun une portion de son individualité naturelle. Il secoue, il agite, il fait approuver ou blâmer, il fait sortir la vérité, il fait connaître les gens de bien, il démasque les coquins. C'est alors que l'homme de bon sens écoute et démêle son monde. Je connaissais celui-ci de longue main. Il fréquentait dans une maison dont son talent lui avait ouvert la porte. Il y avait une fille unique. Il jurait au père et à la mère qu'il épouserait leur fille. Ceux-ci haussaient les épaules, lui riaient au nez, lui disaient qu'il était fou. Et je vis le moment que la chose était faite. Il m'empruntait quelques écus que je lui donnais. Il s'était introduit, je ne sais comment, dans quelques maisons honnêtes, où il avait son couvert, mais à la condition qu'il ne parlerait pas sans en avoir obtenu la permission. Il se taisait et mangeait de rage. Il était excellent à voir dans cette contrainte. S'il lui prenait envie de manquer au traité et qu'il ouvrit la bouche, au premier mot, tous les convives s'écriaient « Oh, Rameau !» Alors la fureur étincelait dans ses yeux et il se remettait à manger avec plus de rage. Ah, vous étiez curieux de savoir le nom de l'homme, et vous le savez. C'est le neveu de ce musicien célèbre qui nous a délivré du plein chant de Lully que nous psalmodions depuis plus de 100 ans, qui a tant écrit de visions inintelligibles et de vérités apocalyptiques sur la théorie de la musique où ni lui ni personne n'entendit jamais rien, et de qui nous avons un certain nombre d'opéras où il y a de l'harmonie, des bouts de chant, des idées décousues, du fracas, des vols, des triomphes, des lances, des gloires, des murmures, des victoires à perte d'haleine, des airs de danse qui dureront éternellement et qui, après avoir enterré le Florentin, sera enterré parmi les virtuoses italiens. Ce qu'il présentait et le rendait sombre, triste, hargneux. Car personne n'a autant d'humeur, pas même une jolie femme qui s'élève avec un bobo sous le nez, qu'un auteur menacé de survivre à sa réputation. Témoin, Marivaux et Crébillon le fils. Il m'aborde. « Ah ah, vous voilà, monsieur le philosophe. Et que faites-vous ici parmi ce tas de fainéants? Est-ce que vous perdez aussi votre temps à pousser le bois ?» C'est ainsi qu'on appelle par mépris jouer aux échecs ou aux dames. Moi, oh non, mais quand je n'ai rien de mieux à faire, je m'amuse à regarder un instant ce qui le pousse bien. En ce cas, vous vous amusez rarement, excepté les gars et Philidor, le reste n'y entend rien. Oui, monsieur de Bissy, donc. Oh, celui-là est en joueur d'échecs, c'est comme mademoiselle Clairon est en acteur. Ils savent de ces jeux l'un et l'autre tout ce qu'on en peut apprendre. Alors, vous êtes difficile, et je vois que vous ne faites grâce qu'aux hommes sublimes. Oui, aux échecs, aux dames, en poésie, en éloquence, en musique et autres fadaises comme cela. À quoi bon la médiocrité dans ces genres? Un peu de choses, j'en conviens. Mais c'est qu'il faut qu'il y ait un grand nombre d'hommes qui s'y appliquent pour faire sortir l'homme de génie. Il est un dans la multitude. Mais laissons cela. Il y a une éternité que je ne vous ai vu. Je ne pense guère à vous quand je ne vous vois pas, mais vous me plaisez toujours à revoir. Qu'avez-vous fait? Ce que vous, moi et tous les autres font. Du bien, du mal et rien. Et puis j'ai eu faim et j'ai mangé, quand l'occasion s'en est présentée. Après avoir mangé, j'ai eu soif et j'ai bu quelquefois. Cependant la barbe me venait et quand elle est venue, je l'ai fait raser. Vous avez mal fait. C'est la seule chose qui vous manque pour être un sage. Oui, là, j'ai le front grand et aridé, l'œil ardent, le nez saillant, les joues larges, le sourcil noir et fourni, la bouche bien fendue, la lèvre rebordée et la face carrée. Si ce vaste menton était couvert d'une longue barbe, savez-vous que cela figurerait très bien en bronze ou en marbre ? À côté d'un César, d'un Marc Aurèle, d'un Socrate. Non, non, j'aurais mieux entre Diogène et Phryné. Je suis effronté comme l'un, et je fréquente volontiers chez les autres. Vous portez-vous toujours bien ? Oui, ordinairement, mais pas merveilleusement aujourd'hui. Comment ? Mais vous voilà avec un ventre de silène et un visage. Un visage qu'on prendrait pour son antagoniste. C'est que l'humeur qui fait sécher mon cher oncle engraisse apparemment son cher neveu. À propos de cet oncle, le voyez-vous quelquefois ? Oui, passer dans la rue. Est-ce qu'il ne vous fait aucun bien ? Oh, s'il en fait à quelqu'un, c'est sans s'en douter. C'est un philosophe dans son espèce. Il ne pense qu'à lui, le reste de l'univers lui est comme d'un clou à souffler. Sa fille et sa femme n'ont qu'à mourir quand elles voudront, pourvu que les cloches de la paroisse, qu'on sonnera pour elles, continuent de résonner la 12e et la 17e, tout sera bien. Cela est heureux pour lui. Et c'est ce que je prise particulièrement dans les gens de génie. Ils ne sont bons qu'à une chose, passer cela à rien. Ils ne savent ce que c'est d'être citoyen, père, mère, frère, parent, ami. Entre nous, il faut leur ressembler de tout point, mais ne pas désirer que la graine en soit trop commune. Il faut des hommes, mais pour des hommes de génie, point. Non, ma foi, il n'en faut point. Ce sont eux qui changent la face du globe. Et dans les plus petites choses, la sottise est si commune et si puissante qu'on ne la réforme pas sans charivari. Il s'établit partie de ce qu'ils ont imaginé, partie reste comme il était. De là deux évangiles, un habit d'arlequin. La sagesse du moine de Rabelais est la vraie sagesse, pour son repos et pour celui des autres. Faire son devoir, tellement qu'elle ment. Toujours dire du bien de monsieur le prieur et laisser aller le monde à sa fantaisie. Il va bien puisque la multitude en est contente. Si je savais l'histoire, je vous montrerais que le mal est toujours venu d'ici-bas par quelque homme de génie. Mais je ne sais pas l'histoire parce que je ne sais rien. Le diable m'emporte si j'ai jamais rien appris. Et si pour n'avoir rien appris, je m'en trouve plus mal. J'étais un jour à la table d'un ministre du roi de France qui a de l'esprit comme quatre. Eh bien, il nous démontra, clair comme un infondeux, que rien n'était plus utile au peuple que le mensonge, rien de plus nuisible que la vérité. Je ne me rappelle pas bien ses preuves, mais il s'ensuivait évidemment que les gens de génie sont détestables et que si un enfant apportait en naissant sur son front la caractéristique de ce dangereux présent de la nature, il faudrait ou l'étouffer ou le jeter au cagnard. Cependant, ces personnages-là, si ennemis du génie, prétendent tous en avoir. Oh, je crois bien qu'ils le pensent au-dedans d'eux-mêmes, mais je crois pas qu'ils osassent l'avouer. C'est par modestie. Vous consultez donc là une terrible haine contre le génie ? Ah ! À n'en jamais revenir ! Mais j'ai vu un temps que vous vous désespériez de n'être qu'un homme commun. Vous ne serez jamais heureux si le pour et le contre vous affligent également. Il faudrait prendre son parti et y demeurer attaché. Tout en convenant avec vous que les hommes de génie sont communément singuliers, ou comme dit le proverbe, qu'il n'y a point de grands esprits sans un grain de folie, on n'en reviendra pas. On méprisera les siècles qui n'en auront pas produit. Ils feront l'honneur des peuples chez lesquels ils auront existé, tôt ou tard. On leur élève des statues et on les regarde comme les bienfaiteurs du genre humain. Non, déplaise au ministre sublime que vous m'avez cité, je crois que si le mensonge peut servir un moment, il est nécessairement nuisible à la longue, et qu'au contraire la vérité sert nécessairement à la longue, bien qu'il puisse arriver qu'elle nuise dans le moment. D'où je serais tenté de conclure que l'homme de génie qui décrit une erreur générale ou qui accrédite une grande vérité est toujours un être digne de notre vénération. Il peut arriver que cet être soit la victime du préjugé et des lois, mais il y a deux sortes de lois, les unes d'une équité, d'une généralité absolue, d'autres bizarres, qui ne doivent leur sanction qu'à l'aveuglement ou la nécessité des circonstances. Celles-ci ne couvrent le coupable qui les enfreint que d'une ignominie passagère, ignominie que le temps reverse sur les juges et sur les nations pour y rester à jamais. De Socrate ou du magistrat qui lui fit boire la ciguë, quel est aujourd'hui le déshonoré? Ah, le voilà bien avancé! En a-t-il été moins condamné? En a-t-il moins été mis à mort? En a-t-il moins été un citoyen turbulent? Par le mépris d'une mauvaise loi, en a-t-il moins encouragé les fous au mépris des bonnes? En a-t-il moins été un particulier audacieux et bizarre? Vous n'étiez pas éloigné tout à l'heure d'un aveu peu favorable aux hommes de génie. Écoutez-moi, cher homme, une société ne devrait point avoir de mauvaises lois. Et si elle n'en avait que de bonnes, elle ne serait jamais dans le cas de persécuter un homme de génie. Je ne vous ai pas dit que le génie fût indivisiblement attaché à la méchanceté, ni la méchanceté au génie. Un sot sera plus souvent un méchant qu'un homme d'esprit. Quand un homme de génie serait communément d'un commerce dur, difficile, épineux, insupportable, quand même ce serait un méchant, qu'en concluriez-vous? Ah, qu'il est bon à noyer? Ah, doucement, cher homme. Ça, dites-moi, je ne prendrai pas votre oncle, pour exemple. C'est un homme dur, c'est un brutal, il est sans humanité, il est avare, il est mauvais père, mauvais époux, mauvais oncle. Mais il n'est pas assez décidé que ce soit un homme de génie, qu'il ait poussé son art fort loin et qu'il soit question de ses ouvrages dans 10 ans. Mais Racine, celui-là certes avait du génie et ne passait pas pour un trop bon homme. Mais de Voltaire? Oh, ne me pressez pas, car je suis conséquent. Lequel des deux préfériez-vous? Ou qu'il eût été un bon homme, identifié avec son comptoir comme Briasson ou avec son aune comme Barbier, faisant régulièrement tous les ans un enfant légitime à sa femme, bon mari, bon père, bon oncle, bon voisin, honnête commerçant, mais rien de plus. Ou qu'il eût été fourbe, traître, ambitieux, envieux, méchant, mais auteur d'Andromaque, de Britannicus, d'Iphigénie, de Phèdre, d'Athalie. Pour lui, ma foi, peut-être que de ces deux hommes, il eût mieux valu qu'il eût été le premier. Cela est même infiniment plus vrai que vous ne le pensez. Oh, 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 vous voilà, vous autres. Si nous disons quelque chose de bien, c'est comme des fous ou des inspirés. Par hasard, il n'y a que vous autres qui vous entendiez. Oui, monsieur le philosophe, je m'entends, et je m'entends aussi que vous vous entendez. Voyons, eh bien, pourquoi pour lui? C'est que toutes ces belles choses-là qu'il a faites ne lui ont pas rendu 20 000 francs, et que s'il eût été un bon marchand, soit de la rue Saint-Denis ou Saint-Honoré, un bon épicier, un gros, un apothicaire bien achalandé, il eût amassé une fortune immense, et qu'en l'amassant, il y aurait toutes sortes de plaisirs dont il n'eût joui, qu'il aurait donné de temps en temps la pistole à un pauvre diable de bouffon comme moi, qui l'aurait fait rire, qui lui aurait procuré dans l'occasion une jeune fille, qui l'aurait désennuyé de l'éternelle cohabitation avec sa femme, que nous aurions fait d'excellents repas chez lui, joué gros jeux, bu d'excellents vins, d'excellentes liqueurs, d'excellents cafés, fait des parties de campagne. Et vous voyez que je ne m'entendais. Vous riez, mais laissez-moi vous dire, il eût été mieux pour ses entours. Sans contredit, pourvu qu'il n'eût pas employé d'une façon déshonnête l'opulence qu'il aurait acquise par un commerce légitime, qu'il eût éloigné de sa maison tous ses joueurs, tous ses parasites, tous ses fades complaisants, tous ses fainéants, tous ses pervers inutiles, et qu'il eût fait assommer à coups de bâton par ses garçons de boutique l'homme officieux qui soulage par la variété les maris du dégoût d'une cohabitation habituelle avec leurs femmes. Assommé, monsieur, assommé. On n'assomme personne dans une ville bien policée. C'est un état honnête. Beaucoup de gens, même titrés, s'en mêlent. Et à quel diable voulez-vous donc qu'on emploie son argent, si ce n'est à avoir bonne table, bonne compagnie, bon vin, belle femme, plaisir de toutes les couleurs, amusement de toutes les espèces? J'aimerais autant être gueux que de posséder une grande fortune sans aucune de ses jouissances. Mais revenons à Racine. Cet homme n'a été bon que pour des inconnus et que pour le temps où il n'était plus.
D'accord. Mais pesez le mal et le bien. Dans 1000 ans d'ici, il fera verser des larmes. Il sera l'admiration des hommes. Dans toutes les contrées de la terre, il inspirera l'humanité, la commisération, la tendresse. On demandera qui il était, de quel pays, et on l'enviera à la France. Il a fait souffrir quelques êtres qui ne sont plus, auxquels nous ne prenons presque aucun intérêt. Nous n'avons rien à redouter, ni de ses vices, ni de ses défauts. Il eût été mieux, sans doute, qu'il eût reçu de la nature les vertus d'un homme de bien, avec les talents d'un grand homme. C'est un arbre qui a fait sécher quelques arbres plantés dans son voisinage, qui a étouffé les plantes qui croissaient à ses pieds. Mais il a porté sa cime jusque dans la nue. Ses branches se sont étendues au loin. Il a prêté son ombre à ceux qui venaient, qui viennent et qui viendront se reposer autour de son tronc majestueux. Il a produit des fruits d'un goût exquis et qui se renouvellent sans cesse. Il serait à souhaiter que de Voltaire eût encore la douceur de Duclos, l'ingénuité de l'abbé Trublet, la droiture de l'abbé d'Olivet. Mais puisque cela ne se peut, regardons la chose du côté vraiment intéressant. Oublions pour un moment le point que nous occupons dans l'espace et dans la durée, et étendons notre vue sur les siècles à venir, les régions les plus éloignées, les peuples à naître. Songeons au bien de notre espèce. Si nous ne sommes pas assez généreux, pardonnons au moins à la nature d'avoir été plus sage que nous. Si vous jetez de l'eau froide sur la tête de Greuze, vous éteindrez peut-être son talent avec sa vanité. Si vous rendez de Voltaire moins sensible à la critique, il ne saura plus descendre dans l'âme de Mérope. Il ne vous touchera plus. Mais si la nature était aussi puissante que sage, pourquoi ne les a-t-elle pas fait aussi bons qu'elle les a fait grands?
Ah, mais ne voyez-vous pas qu'avec un pareil raisonnement, vous renversez l'ordre général, et que si tout ici-bas était excellent, il n'y aurait rien d'excellent? Oh, vous avez raison. Le point important est que vous et moi, nous soyons, et que nous soyons vous et moi. Que tout aille d'ailleurs comme il pourra. Le meilleur ordre des choses, à mon avis, est celui où je devais être. Et foi du plus parfait des mondes, si je n'en suis pas. J'aime mieux être, et même être un pertinent raisonneur, que de n'être pas.
Mais il n'y a personne qui ne pense comme vous. et qui ne fasse le procès à l'ordre qui est, sans s'apercevoir qu'il renonce à sa propre existence.
Oui, il est vrai. Acceptons donc les choses comme elles sont. Voyons ce qu'elles nous coûtent et ce qu'elles nous rendent. Et laissons là le tout que nous ne connaissons pas assez pour le louer ou le blâmer, et qui n'est peut-être ni bien ni mal, s'il est nécessaire, comme beaucoup d'honnêtes gens l'imaginent.
Oh, je n'entends pas grand-chose à tout ce que vous me débitez là. C'est apparemment de la philosophie, je vous préviens que je ne m'en mêle pas. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais bien être un autre au hasard, d'être un homme de génie, un grand homme, voilà. Oui, il faut que j'en convienne, il y a là quelque chose qui me le dit. Je n'en ai jamais entendu louer un seul que son éloge ne m'ait fait secrètement enrager. Je suis envieux. Lorsque j'apprends de leur vie privée quelques traits qui les dégradent, je l'écoute avec plaisir. Cela nous rapproche. J'en supporte plus aisément ma médiocrité. Je me dis, oh certes, tu n'aurais jamais fait Mahomet, mais ni l'éloge du Maupou. J'ai donc été, je suis donc fâché d'être médiocre. Oui, oui, je suis médiocre et fâché. Je n'ai jamais entendu jouer l'ouverture des ânes galantes. Jamais entendu chanter « Profonds abîmes du Thénard, nuit éternelle, nuit » sans me dire avec douleur. Voilà ce que tu ne feras jamais. J'étais donc jaloux de mon oncle, et s'il y avait eu à sa mort quelques belles pièces de clavecin dans son portefeuille, j'aurais pas balancé à rester moi et à être lui. S'il n'y a que cela qui vous chagrine, cela en vaut pas trop la peine. Oh, ce n'est rien, ce sont des moments qui passent. Puis il se remettait à chanter l'ouverture des Indes galantes et l'air profonds abîmes. Et il ajoutait, « Le quelque chose qui est là et qui me parle me dit, « Rameau, tu voudrais bien avoir fait ces deux morceaux-là. Et si tu avais fait ces deux morceaux-là, tu en ferais bien deux autres. » Et quand on aurait fait un certain nombre, on te jouerait, on te chanterait partout. Quand tu marcherais, tu aurais la tête droite. La conscience te rendrait témoignage à toi-même de ton propre mérite. Les autres te désireraient du doigt. On dirait, c'est lui qui a fait les jolies gavottes. Et il chantait les gavottes. Puis, avec l'air d'un homme touché, qui nage dans la joie et qui en a les yeux humides, il ajoutait en se frottant les mains, « T'as une bonne maison !» Et il en mesurait l'étendue avec ses bras un bon lit, et il s'y étendait nonchalamment. De bon vin qu'il goûtait, en faisant claquer sa langue contre son palais. Un bon équipage, et il levait le pied pour y monter de jolies femmes à qui il prenait déjà la gorge et qu'il regardait voluptueusement. « Sans faquin me viendrait en sensé tous les jours !» Et il croyait les voir autour de lui. Il voyait Palissot, Poincinet, les frérons père et fils, la porte, il les entendait, se rengorgeait, les approuvait, leur souriait, les dédaignait, les méprisait, les chassait, les rappelait. Puis il continuait, « Et c'est ainsi que l'on te dirait le matin que tu es un grand homme. Tu dirais dans l'histoire des trois siècles que tu es un grand homme. Tu serais convaincu le soir que tu es un grand homme et le grand homme, Rameau le neveu, s'endormirait au doux murmure de l'éloge qui retentirait dans son oreille. Même en dormant, il aurait l'air satisfait. » Sa poitrine se dilaterait, s'élèverait, s'abaisserait avec aisance. Il ronflerait comme un grand homme. Et en parlant ainsi, il se laissait aller mollement sur une banquette. Il fermait les yeux et il imitait le sommeil heureux qu'il imaginait. Après avoir goûté quelques instants la douceur de ce repos, il se réveillait, étendait ses bras, bâillait, se frottait les yeux et cherchait encore autour de lui ses adulateurs insipides.
« Vous croyez donc que l'homme heureux a son sommeil ?»« Si je le crois, moi, pauvre mère, lorsque le soir j'ai regagné mon grenier et que je me suis fourré dans mon grabat, je suis ratatiné sous ma couverture. » J'ai la poitrine étroite et la respiration gênée. C'est une espèce de plainte faible qu'on entend à peine. Au lieu qu'un financier fait retentir son appartement et aussi toute sa rue. Mais ce qui m'afflige aujourd'hui, c'est pas de ronfler et de dormir mesquinement comme un misérable. Ben, cela est pourtant triste. Oh, ce qui m'est arrivé l'est bien davantage.
Qu'est-ce donc?
Vous avez toujours pris quelque intérêt à moi parce que je suis un bon diable que vous méprisez dans le fond, mais qui vous amuse.
C'est la vérité. Et je vais vous le dire. Avant que de commencer, il pousse un profond soupir et porte ses deux mains à son front. Ensuite, il reprend un air tranquille et me dit.
Vous savez que je suis un ignorant, un sot, un fou, un impertinent, un paresseux, ce que nos bourguignons appellent un fieffétruant, un escroc, un gourmand. Oh, quelle panégyrique! Oh, il est vrai de tout point. Il n'y en a pas d'un seul mot à rabattre. Point de contestation là-dessus, s'il vous plaît. Personne ne me connaît mieux que moi, et je ne dis pas tout.
« Oh, je ne veux point vous fâcher, et je conviendrai de tout. »«
Eh bien, je vivais avec des gens qui m'avaient pris en gré, précisément parce que j'étais doué à un rare degré de toutes ces qualités.
Cela est singulier. Jusqu'à présent, j'avais cru qu'on se les cachait à soi-même, ou qu'on se les pardonnait, et qu'on les méprisait dans les autres. »«
Oh, se les cacher, est-ce qu'on le peut ?» Soyez sûr que quand Palister est tout seul et qu'il revient sur lui-même, il se dit bien d'autres choses. Soyez sûr qu'en tête à tête avec son collègue, il s'avoue franchement qu'ils ne sont que deux insignes maroufles. Les mépriser dans les autres. Mais mes gens étaient plus équitables et leur caractère me réussissait merveilleusement auprès d'eux. J'étais comme un coq en pâte. On me fêtait. On ne me perdait pas un moment sans me regretter. J'étais leur petit rameau, joli rameau, le feu, leur rameau, l'impertinent, le paresseux, l'ignorant, le gourmand, le bouffon, la grosse bête. Il n'y avait pas une de ces épithètes familières qui ne me valut un sourire, une caresse, un petit coup sur l'épaule, un soufflet, un coup de pied, à table un bon morceau, qu'on me jetait dans mon assiette, hors de table une liberté, que je prenais sans conséquence, car moi, je suis sans conséquence. On fait de moi avec moi, devant moi, tout ce qu'on veut, sans que je m'en formalise. Et les petits présents qui me pleuvaient, le grand chien que je suis, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu pour avoir eu le sens commun une fois, une seule fois en ma vie. Si cela m'arrive jamais, de quoi s'agissait-il donc? Oh, c'est une sottise incomparable, incompréhensible, irrémissible.
Quelle sottise encore?
« Rameau, rameau, vous avez ton prix pour cela. La sottise d'avoir eu un peu de goût, un peu d'esprit, un peu de raison. Rameau, mon ami, cela vous apprendra à rester ce que Dieu vous fit et ce que vos protecteurs vous voulaient. Aussi, on vous a pris par les épaules, on vous a conduit à la porte, on vous a dit « Faquin, tirez !» Ne reparaissez plus. Cela veut avoir du sens, de la raison. Je crois, oui. Allez, tirez. Nous avons de ces qualités-là, le reste. Oh, vous êtes en allée en vous mordant les doigts. C'est votre langue maudite qu'il fallait mordre auparavant. Et pour ne vous en être pas avisé, vous voilà sur le pavé, sans le sol, et ne sachant vous donner de la tête. Vous étiez nourri à bouche que veux-tu, et vous retournerez au ringrat. Bien logé, et vous serez trop heureux si on vous rend votre grenier. Bien couché, et la paille vous attend entre le cocher de Monsieur de Soubise et l'ami Robbé. Au lieu d'un sommeil doux et tranquille, comme vous l'auriez, vous entendrez d'une oreille le hennissement et le piétinement des chevaux, et de l'autre le bruit mille fois plus insupportable des vers secs, durs et barbares. Malheureux, mal avisé, possédé d'un million de diables. Mais n'y aurait-il pas moyen de se rapatrier? La faute que vous avez commise, elle est vraiment impardonnable? À votre place, j'irai retrouver mes gens. Vous leur êtes plus nécessaire que vous ne croyez. Oh, je suis sûr qu'à présent, qu'ils m'ont pas, pour les faire rire, ils se carruient comme des chiens. J'irai donc les retrouver, je ne leur laisserai pas le temps de se passer de moi, de se tourner vers quelque amusement honnête, car qui sait ce qui peut arriver? Oh, c'est pas là ce que je crains, cela n'arrivera pas. Quelque sublime que vous soyez, un autre peut vous remplacer. Oh, difficilement. D'accord, cependant, j'irai avec ce visage défait, ses yeux égarés, ce col débraillé, ses cheveux ébouriffés, dans l'état vraiment tragique où vous voilà. Je me jetterai aux pieds de la divinité, je me collerai la face contre terre, et sans me relever, je lui dirai d'une voix basse et sanglotante, « Pardon, madame, pardon, je suis un indigne, un infâme. » Ce fut un malheureux instant, car vous savez que je ne suis pas sujet à avoir du sens commun, et je vous promets de n'en avoir de ma vie. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que, tandis que je lui tenais ce discours, il en exécutait la pantomime. Il s'était prosterné, il avait collé son visage contre terre, il paraissait tenir entre ses deux mains le bout d'une pantoufle, il pleurait, il sanglotait, il disait « Oui, ma petite reine, oui, je le promets, je n'en aurai de ma vie, de ma vie. » Puis, se relevant brusquement, il ajouta d'un ton sérieux et réfléchi « Mais, oui, vous avez raison, je crois que c'est le mieux. Elle est bonne. » Monsieur Vieillard dit qu'elle est si bonne. Moi, je sais un peu qu'elle l'est, mais cependant, aller s'humilier devant une guenon, crier miséricorde aux pieds d'une misérable petite histrionne que les sifflets du parterre ne cessent de poursuivre, moi, Rameau, fils de Monsieur Rameau, apothicaire de Dijon, qui est un homme de bien, et qui n'a jamais fléchi le genou devant qui que ce soit. Moi, Rameau, le neveu de celui qu'on appelle le grand Rameau, qu'on voit se promener droit, les bras en l'air au palais royal, depuis que M. Carmentel l'a dessiné courbé, et les mains sous les masques de son habit, moi, qui ai composé des pièces de clavecin que personne ne joue, mais qui seront peut-être les seuls qui passeront dans la postérité qui les jouera. Moi, j'irai. Oh, attendez, monsieur, cela ne se peut. » Et mettant sa main droite sur sa poitrine, il ajoutait, « Je me sens là quelque chose qui s'élève et qui me dit, « Rameau, tu n'en feras rien. S'il faut qu'il y ait une certaine dignité attachée à la nature de l'homme, car rien ne peut étouffer. Cela se réveille à propos de bottes. Oui, à propos de bottes. Car rien d'autre jour, il m'en coûterait rien pour être un vil tant qu'on voudrait. Ces jours-là, pour un liard, je baiserais le cul à la petite Husse. Eh, mais l'ami, Elle est blanche, jolie, jeune, douce, potelée, et c'est un acte d'humilité auquel un plus délicat que vous pourrait quelquefois s'abaisser. Oh, entendons-nous, c'est qu'il y a baiser le cul au simple et baiser le cul au figuré. Demandez au gros berger qui baise le cul de Madame de Lamarque au simple et au figuré. Et ma foi, le simple et le figuré me déplairaient également, là. Mais si l'expédient que je vous suggère ne vous convient pas, ayez donc le courage d'être gueux. Il est dur d'être gueux. Tandis qu'il y a tant de sots opulents aux dépens desquels on peut vivre. Et puis le mépris de soi, oh, est insupportable. Est-ce que vous connaissez ce sentiment-là? Si je le connais, combien de fois je me suis dit, comment, rameau, il y a 10 000 bonnes tables à Paris, à 15 ou 20 couverts chacune, et de ces couverts-là, il n'y en a pas un pour toi. Il y a des bourses pleines d'or qui se versent de droite à gauche, et il n'en tombe pas une seule pièce pour toi. 1000 petits beaux esprits sans talent, sans mérite, 1000 petites créatures sans charme, 1000 plats intrigants sont bien vêtus, et toi tu irais tout nu, et tu serais imbécile à ce point. Est-ce que tu ne saurais pas mentir, jurer, parjurer, promettre, tenir ou manquer comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas te mettre à quatre pattes comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas favoriser l'intrigue de madame et porter le billet doux de monsieur comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas encourager ce jeune homme à parler à mademoiselle et persuader à mademoiselle de l'écouter comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas faire entendre à la fille d'un de nos bourgeois qu'elle est mal mise, que de belles boucles d'oreilles, un peu de rouge et des dentelles, une robe à la polonaise lui siéraient à ravir, que ces petits pieds-là ne sont pas faits pour marcher dans la rue, qu'il y a un beau monsieur, joli riche, qui a un habit galonné d'or, un superbe équipage, et si grand laquais, qu'il a vu en passant, qu'il la trouve charmante, et que depuis ce jour-là, il en a perdu la boule et le manger, qu'il n'en dort plus, et qu'il en mourra. Mais mon papa, bon, votre papa, il se fâchera d'abord un peu. Et maman, qui me recommande tant d'être honnête fille, qui me dit qu'il n'y a rien dans ce monde que l'honneur. Oh, vieux propos qui ne signifie rien. Et mon confesseur, oh, vous ne le verrez plus. Ou si vous persistez dans la fantaisie d'aller lui faire l'histoire de vos amusements, il vous en coûtera quelques livres de sucre et de café. Mais c'est un homme sévère qui m'a déjà refusé l'absolution pour la chanson « Viens dans ma cellule ». Pensez que vous n'avez rien à lui donner, mais quand vous lui apparaîtrez en dentelle, j'aurai donc des dentelles, bah, sans doute, et de toutes les sortes, de belles boucles de diamants. J'aurai donc de belles boucles de diamants, oui, comme celle de cette marquise qui vient quelquefois prendre des gants dans notre boutique. Précisément. Dans un bel équipage, avec des chevaux gris pommelés, deux grands laquais, un petit nègre, et le coureur en avant, du rouge, des mouches, la queue portée. Au bal? Au bal, à l'opéra, à la comédie. Oh, déjà le cœur lui tressaillit de joie. Tu joues avec un papier entre tes doigts. Qu'est-ce cela? Oh, cela n'est rien. Oh, il me semble que si. Oh, c'est ce billet. Et pour qui? Pour vous, si vous en étiez un peu curieuse. Curieuse? Je le suis beaucoup, voyons. Elle lit. Une entrevue, oh, cela ne se peut. En allant à la messe. Mais maman m'accompagne toujours. Mais s'il venait ici un peu matin... Je me lève la première et je suis au comptoir avant qu'on soit levé. Il vient, il plaît. Un beau jour, à la brune, la petite disparaît. Et l'on me compte mes 2000 écus. Et quoi alors, tu possèdes ce talent-là, et tu manques de pain. N'as-tu pas de honte, malheureux? Je me rappelais un tas de coquins qui m'allaient pas à la cheville et qui regorgeaient de richesses. J'étais en surtout de baraquant et ils étaient couverts de velours. Ils s'appuyaient sur la canne à pommes d'or et en bec de corbin et ils avaient l'Aristote ou le Platon au doigt. Qu'était-ce pourtant? La plupart de misérables croque-notes. Aujourd'hui, ce sont des espèces de seigneurs. Alors, je me sentais du courage, l'âme élevée, l'esprit subtil et capable de tout. Mais ces heureuses dispositions, apparemment, ne duraient pas. Jusqu'à présent, je n'ai pu faire un certain chemin. Quoi qu'il en soit, voilà le texte de mes fréquents soliloques que vous pouvez paraphraser à votre fantaisie. Parce que vous en concluriez que je connais le mépris de soi-même ou ce tourment de la conscience qui naît de l'inutilité des dons que le ciel vous a départis. Mais c'est le plus cruel de tous. Il vaudrait presque autant que l'homme ne fût pas né. Je l'écoutais, et à mesure qu'il faisait la scène du proxénète et de la jeune fille qu'il séduisait, l'âme agitée de deux mouvements opposés, je ne savais si je m'abandonnerais à l'envie de rire ou au transport de l'indignation. Je souffrais. 20 fois, un éclat de rire empêcha ma colère d'éclater. 20 fois, la colère qui s'élevait au fond de mon cœur se termina par un éclat de rire. J'étais confondu de tant de sagacité et de tant de bassesse, d'idées si justes et alternativement si fausses, d'une perversité si générale de sentiments, d'une turpitude si complète et d'une franchise si peu commune. Il s'aperçut du conflit qui se passait en moi. « Qu'avez-vous ? » me dit-il. « Rien. Oh, vous me paraissez troublé. Je le suis aussi. Alors, mais enfin, que me conseillez-vous de changer de propos ? » Oh. Malheureux, dans quel état d'abjection vous êtes né ou tombé. J'en conviens, mais cependant que mon état ne vous touche pas trop. Mon projet, en mourant à vous, n'était point de vous affliger. Je me suis fait chez ces gens quelque épargne. Songez que je n'avais besoin de rien, mais de rien absolument, et que l'on m'accordait tant pour mes menus plaisirs. Alors il recommença à se frapper le front avec un de ses poings, à se mordre la lèvre et rouler au plafond ses yeux égarés, ajoutant « Bah, c'est une affaire faite, j'ai mis quelque chose de côté. Le temps s'est écoulé et c'est toujours autant d'amasser. » Vous voulez dire de perdu ? Non, non, d'amasser. On s'enrichit à chaque instant. Un jour de moins à vivre ou un écu de plus, c'est tout un. Le point important est d'aller aisément, librement, agréablement, copieusement, tous les soirs à la garde-robe. Oh, stercus pretiosum, voilà le grand résultat de la vie dans tous les états. Au dernier moment, tous sont également riches. Et Samuel Bernard, qui à force de vol, de pillage, de banqueroute, laisse 27 millions en or, et à Rameau, qui ne laissera rien, Rameau, à qui la charité fournira la serpillière dont on enveloppera. Le mort n'entend pas sonner les cloches, c'est en vain que 100 prêtres s'agenouillent pour lui, qu'il est précédé et suivi d'une longue file de torches ardentes. Son âme ne marche pas à côté du maître des cérémonies. Pourrir sous du marbre, pourrir sous de la terre, c'est toujours pourrir. Avoir autour de son cercueil les enfants rouges et les enfants bleus, ou n'avoir personne, qu'est-ce que cela fait? Et puis, vous voyez bien, ce poignet, il était raide comme un diable. Ces 10 doigts, ben, c'était autant de bâtons fichés dans un métacarpe de bois. Et ces tendons, c'était de vieilles cordes à boyaux, plus sèches, plus raides, plus inflexibles que celles qui ont servi à la roue d'un tourneur. Mais je vous les ai tant tourmentés, tant brisés, tant rompus. Tu veux pas aller? Et moi, mordieu, je dis que tu l'iras. Cela sera. Et tout en disant cela, de la main droite, il s'était saisi les doigts, le poignet de la main gauche, et il les renversait en dessus, en dessous. L'extrémité des doigts touchait au bras, les jointures en craquaient. Je craignais que les os n'en demeurassent disloqués. Oh, prenez garde, lui dis-je, vous allez vous estropier. Oh, ne craignez rien, ils y sont faits. Depuis 10 ans, je leur en ai bien donné d'une autre façon. Malgré qu'ils en eussent, il a bien fallu que les bougres s'y accoutumassent et qu'ils apparaissent à se placer sur les touches et à voltiger sur les cordes. Aussi, à présent, cela va, oui, cela va. En même temps, il se met dans l'attitude d'un joueur de violon. Il fredonne de la voix un allegro de Locatelli, son bras droit imite le mouvement de l'archet. Sa main gauche et ses doigts semblent se promener sur la longueur du manche. S'il fait un ton faux, il s'arrête. Il remonte ou baisse la corde, il la pince de l'ongle pour s'assurer qu'elle est juste. Il reprend le morceau, il l'a laissé, il bat la mesure du pied, il se démène de la tête, des pieds, des mains, des bras, du corps. Comme vous avez vu quelquefois au concert spirituel Ferrari ou Chalabran ou quelque autre virtuose, dans les mêmes convulsions, m'offrant l'image du même supplice et me causant à peu près la même peine. Car n'est-ce pas une chose pénible à voir que le tourment dans celui qui s'occupe à me peindre le plaisir? Tirer entre cet homme et moi un rideau qui me le cache, s'il faut qu'il me montre impatient appliqué à la question. Au milieu de ses agitations et de ses cris, s'il se présentait une tenue à un de ces endroits harmonieux où l'archet se meut lentement sur plusieurs cordes à la fois, son visage prenait l'air de l'extase. Sa voix s'adoucissait, il s'écoutait avec ravissement. Il est sûr que les accords résonnaient dans ses oreilles et dans les miennes. Puis, remettant son instrument sous son bras gauche, de la même main dont il la tenait, et laissant tomber sa main droite avec son archet. « Eh bien, me disait-il, qu'en pensez-vous? À merveille! Cela va, hein, ce me semble, cela résonne à peu près comme les autres. » Et aussitôt, il s'accroupit, comme un musicien qui se met au clavecin. « Je vous demande grâce pour vous et pour moi, lui dis-je. »« Non, non, puisque je vous tiens, vous m'entendrez. Je ne veux pas d'un suffrage qu'on m'accorde sans savoir pourquoi. Vous me louerez d'un ton plus assuré, et cela me vaudra quelque écolier. Je suis si peu répandu, et vous allez vous fatiguer en pure perte. »« Je ne me fatigue jamais !» Comme je vis que je voudrais inutilement avoir pitié de mon homme, car la sonate sur le violon l'avait mis tout en eau, je pris le parti de le laisser faire. Le voilà donc assis au clavecin, les jambes fléchies, la tête élevée vers le plafond, où l'on lui dit qu'il voyait une partition notée, chantant, préludant, exécutant une pièce d'Alberti ou de Galuppi, je ne sais lequel des deux. Sa voix allait comme le vent, et ses doigts voltigeaient libres sur les touches. Tantôt laissant le dessus pour prendre la basse, tantôt quittant la partie d'accompagnement pour revenir au-dessus. Les passions se succédaient sur son visage. On y distinguait la tendresse, la colère, le plaisir, la douleur. On sentait les pianos, les forte, et je suis sûr qu'un plus habile que moi aurait reconnu le morceau, au mouvement, au caractère, à ses mines et quelques traits de chant qui lui échappaient par intervalles.
Mais ce qu'il y avait de bizarre, c'est que de temps en temps, il tâtonnait, se reprenait comme s'il eût manqué, et se dépitait de n'avoir plus la pièce entre les doigts. « Enfin, vous voyez, » dit-il, en se redressant et en essuyant les gouttes de sueur qui descendaient le long de ses joues, « que nous savons aussi placer un triton, une quinte superflue, et que l'enchaînement des dominantes nous est familier. Ces passages en harmonique dont le cher oncle a fait tant de trains, c'est pas la mer à boire. Nous nous en tirons. Vous vous êtes donné bien de la peine pour me montrer que vous étiez fort habile. J'étais homme à vous croire sur votre parole. Fort habile, eh non ! Pour mon métier, je le sais à peu près. Et c'est plus qu'il ne faut, car dans ce pays-ci, est-ce qu'on est obligé de savoir ce qu'on montre ? Pas plus que de savoir ce qu'on apprend. Cela est juste, morbleu, et très juste. Là, monsieur le philosophe, la main sur la conscience, parlez net. Il y eut un temps où vous n'étiez pas cossu comme aujourd'hui. Oh, je ne le suis pas encore trop. Mais vous n'iriez plus au Luxembourg en été, vous vous en souvenez ? Laissons cela, oui, je m'en souviens. En redingote de peluche grise. Oui, oui. Éreinté par un des côtés, avec la manchette déchirée et les bandes de laine noire et recousues par derrière avec du fil blanc. Et oui, 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 tout comme il vous plaira. Que faisiez-vous alors dans l'allée des soupirs ? Une assez triste figure. Au sortir de là, vous trottiez sur le pavé. D'accord. Vous donniez des leçons de mathématiques, sans en savoir un mot. N'est-ce pas là que vous en voulez venir ? Justement. J'apprenais en montrant aux autres et j'ai fait quelques bons écoliers. Oh, cela se peut, mais il n'en est pas de la musique comme de l'algèbre ou de la géométrie. Aujourd'hui, que vous êtes un gros monsieur, pas si gros, que vous avez du foin dans vos bottes, très peu, vous donnez des maîtres à votre fille, pas encore, c'est sa mère qui se mêle de son éducation, car il faut avoir la paix chez soi. La paix chez soi, morbleu ! On ne l'a que quand on est le serviteur ou le maître. Et c'est le maître qu'il faut être. J'ai eu une femme. Dieu veuille avoir son âme, mais quand il lui arrivait quelquefois de se rebéquer, je m'élevais sur mes ergots, je déployais mon tonnerre, je disais, comme Dieu, que la lumière se fasse, et la lumière était faite. Aussi, en 4 années de temps, nous n'avons pas eu 10 fois un mot, l'un plus haut que l'autre. Quel âge a votre enfant ? Cela ne fait rien à l'affaire. Quel âge a votre enfant ? Que diable, laissons là mon enfant et mon âge, et revenons au maître qu'elle aura. Par Dieu, je ne sache rien d'aussi têtu qu'un philosophe. En vous suppliant très humblement, nous pourrait-on savoir de monseigneur le philosophe quel âge à peu près peut avoir mademoiselle sa fille ? Oh, supposez-lui 8 ans. 8 ans ? Il y a 4 ans que cela devrait avoir les doigts sur les touches. Mais peut-être ne me souciais-je pas trop de faire entrer dans le plan de son éducation une étude qui occupe si longtemps et qui sert si peu. Et que lui apprendrez-vous donc, s'il vous plaît ? La raison est juste, si je puis. Chose si peu commune parmi les hommes, et plus rare encore parmi les femmes. Et laissez-la déraisonner tant qu'elle voudra, pourvu qu'elle soit jolie, abusante et coquette, puisque la nature a été assez ingrate envers elle pour lui donner une organisation délicate avec une âme sensible et l'exposer aux mêmes peines de la vie que si elle avait une organisation forte et un cœur de bronze,
Je lui apprendrai, si je puis, à les supporter avec courage. Laissez-la pleurer, souffrir, minauder, avoir des nerfs, agacée comme les autres, pourvu qu'elle soit jolie, amusante et coquette. Quoi, point de danse ? On prend plus qu'il n'en faut pour faire une révérence, avoir un maintien décent, se bien présenter et savoir marcher. Point de chant ? Bon, pas plus qu'il n'en faut pour bien prononcer. Point de musique ? Bon, s'il y avait un bon maître d'harmonie, je le lui confierais volontiers, 2 heures par jour, pendant 1 ou 2 ans, pas davantage. Et à la place des choses essentielles que vous supprimez, oh, je mets de la grammaire, de la fable, de l'histoire, de la géographie, un peu de dessin et beaucoup de morale. Combien il me serait facile de vous prouver l'inutilité de toutes ces connaissances-là dans un monde tel que le nôtre. Que dis-je, l'inutilité ? Peut-être même le danger ! Mais je m'en tiendrai pour ce moment à une question. Ne lui faudrait-il pas 1 ou 2 maîtres ? Oui, sans doute. Ah, nous y revoilà. Et ces maîtres, vous espérez qu'ils sauront la grammaire, la fable, l'histoire, la géographie, la morale, dont ils lui donneront des leçons ? Chansons, mon cher maître, chansons. S'ils possédaient ces choses assez pour les montrer, ils ne les montreraient pas. Et pourquoi ? C'est qu'ils auraient passé leur vie à les étudier. Il faut être profond dans l'art ou dans la science pour en bien posséder les éléments. Les ouvrages classiques ne peuvent être bien faits que par ceux qui ont blanchi sous le harnais. C'est le milieu et la fin qui éclaircissent les ténèbres du commencement. Demandez à votre ami, monsieur d'Alembert, le coryphée de la science mathématique, s'il saurait trop bien pour en faire des éléments. Ce n'est qu'après 30 à 40 ans d'exercice que mon oncle a entrevu les premières lueurs de la théorie musicale. Oh, fou, archi-fou, m'écriai-je, comment se fait-il que dans ta mauvaise tête il se trouve des idées si justes, pêle-mêle avec tant d'extravagance. Qui diable c'est cela ? C'est le hasard qui vous les jette et elles demeurent. Tant il y a que quand on ne sait pas tout, on ne sait rien de bien. On ignore où une chose va, d'où une autre vient, où celle-ci ou celle-là veulent être placées, laquelle doit passer la première, où sera mieux la seconde. Montre-t-on bien sans la méthode ? Et la méthode, d'où naît-elle ? Tenez, mon philosophe, j'ai dans la tête que la physique sera toujours une pauvre science, une goutte d'eau prise avec la pointe d'une aiguille dans le vaste océan, un grain détaché de la chaîne des Alpes. Et les raisons des phénomènes, en vérité, il vaudrait mieux autant l'ignorer que de savoir si peu, si mal. Et c'était précisément où j'en étais, lorsque je me fis maître d'accompagnement et de composition. À quoi rêvez-vous ? Je rêve que tout ce que vous venez de dire est plus spécieux que solide. Mais laissons cela. Vous avez montré, dites-vous, l'accompagnement et la composition ?
Oui.
Et vous n'en saviez rien du tout ?
Non, ma foi.
Et c'est pour cela qu'il y en avait de pire que moi, ceux qui croyaient savoir quelque chose. Au moins, je ne gâtais ni le jugement ni les mains des enfants. En passant de moi à un bon maître, comme il n'avait rien appris, au moins il n'avait rien à désapprendre, et c'était toujours autant d'argent et de temps épargnés.